Kiosque Magazine.
Jeudi 9 octobre et dehors, il fait un temps magnifique, un temps à croire que le créateur cherche aujourd'hui à se faire pardonner sa journée d'hier, voilà. Alors, pour vous accompagner au cours de la prochaine heure, Éric de Belval et moi-même, François Brodeur, qui allons vous parler d'économie et d'emploi, comme Kiosque Magazine le fait tous les jeudis. Éric, que nous avez-vous déniché?
Des choses fort intéressantes, François. On va commencer par s'intéresser à la réforme de la santé. C'est un nouvel exemple du paradoxe démocratique. Le pouvoir politique, même décrié ou critiqué dans certaines de ses décisions par des expertises indépendante et compétente, mais extérieure à lui, peut continuer à décider sans qu'aucun contre-pouvoir ne vienne l'arrêter ou le contraindre à réfléchir. C'est ce qui semble se produire à propos de la réforme du ministre de la Santé au Québec. Après, je vous propose de vous intéresser à une lettre qu'a envoyée Naomi Klein, et vous savez qu'elle fait couler beaucoup d'encre dans la presse anglo-saxonne. Et c'est une figure de l'altermondialisme. Hein. Il faut se saisir de la lutte contre le changement climatique pour renverser l'ordre libéral et construire une société plus juste, pense-t-elle. Je vous rappelle que c'est devenue une représentante de l'altermondialisation grâce à un best-seller qui s'appelle No Logo, qu'elle a publié en 2000, qui est une sorte de bible du mouvement anticapitaliste. Elle y dénonce la réduction de l'espace public, social et citoyen au profit des multinationales au travers de la prolifération de leur logo. Elle évoque l'exploitation de la misère que conduisent selon elle, les multinationales envahissantes comme McDonald's, Nike, Coca-Cola, Starbucks ou encore Walmart. Je dis Nike, il faudrait dire Nike, puisque Nike, c'est le nom de la déesse
de la victoire, qui est dans la main d'Athéna, hein? La statue d'Athéna.
Exactement. Oui. Et on finit par le retour du Made in America. Oh là là, je sens un drapeau qui flotte quand je dis ces mots. L'histoire balbutie, mais ne se répète pas forcément, dit-on. Et en économie, qu'en est-il? Eh bien, on pourra avancer que les mêmes causes produisent les mêmes effets sans prendre trop grand risque de se tromper. Alors, si je vous dis coût de production et salaire en hausse, vous me répondrez sans doute délocalisation. Et si la cause disparaît ou même s'inverse, vous répondrez alors relocalisation. C'est ce qui semble atteindre les États-Unis.
Ce qui est une bonne nouvelle. De mon côté, je vous parle des pièges, tiens, qui guettent l'investisseur, puisque Gérard Bérubé a signé dans Le Devoir un texte sur le sujet. Un petit rappel des canons qui sont appliqués par les Warren Buffett et Jerry Slowski de ce monde. Je vous parle également d'environnement, puisque les nouvelles sur ce front-là sont mauvaises. On apprenait cette semaine que le gouvernement fédéral, qui s'était déjà désengagé de Kyoto puisqu'il trouvait les cibles irréalistes, bien, va rater ses nouvelles cibles. Il n'y a rien qui va empêcher ça, semble-t-il. Mais pour commencer, c'est le retour du déséquilibre fiscal et tout ça dans quelques instants. Jean-Robert Sans-Façon signait dans Le Devoir du 3 octobre 2014 un texte intéressant puisqu'il nous montre que le directeur parlementaire du budget, de loin mon fonctionnaire préféré à Ottawa, il n'y a rien à faire, le directeur parlementaire du budget donc s'est penché sur les recettes et les dépenses des différents ordres de gouvernement au Canada pour finir par conclure que oui, il n'y a pas parlé de déséquilibre fiscal, la patate est trop chaude pour qu'on ressorte ce mot-là, mais il y a à tout le moins une grave disparité fiscale. C'est un texte qui s'intitule « Déséquilibre ou disparité ». Avec le dernier rapport sur la viabilité financière des gouvernements au pays, le directeur parlementaire du budget à Ottawa vient d'introduire un nouveau mot pour qualifier le déséquilibre entre le fédéral et les provinces, disparité. Déséquilibre fiscal ou disparité fiscale, who cares? Selon le directeur parlementaire du budget, si la tendance se maintient, la dette accumulée par les provinces sera passée de 31 % à 338 % de leur produit intérieur brut dans 75 ans, alors que, de son côté, Ottawa pourra augmenter chaque année ses dépenses de 26 milliards sans affecter son niveau d'endettement actuel. À la demande des provinces, un exercice semblable a aussi été fait récemment par le Conference Board qui conclut que, si rien n'est fait pour corriger la trajectoire, les provinces accumuleront des déficits de 172 milliards au cours des 20 prochaines années, pendant que les excédents fédéraux totaliseront 110 milliards. Comme il fallait s'y attendre, ce sont les coûts des soins de santé, notamment ceux liés au vieillissement, qui expliquent une telle disparité, puisque leur augmentation moyenne atteindra 4,8 % pour les 50 prochaines années, soit beaucoup plus que la croissance du produit intérieur brut, qui ne devrait pas dépasser 3,6 %. Bien sûr, ces résultats peuvent ne pas se concrétiser si les gouvernements prennent les choses en main. Or, selon la troisième étude publiée jeudi par l'Institut CDR, il y a peu de chances que cela se produise si le passé est garant de l'avenir. En effet, À lui seul, l'écart entre les prévisions de dépenses présentées chaque année par les gouvernements en santé et la réalité observée après coup a totalisé 19 milliards depuis 14 ans au Canada. Et cela devrait se poursuivre, conclut l'auteur de l'étude, l'économiste William Robson, à moins que des changements très profonds ne soient apportés au système de santé. C'est ce que le gouvernement Couillard tente de faire présentement en réduisant la bureaucratie, en centralisant la prise de décision et en reportant la fraction des augmentations salariales des médecins qui ne leur a pas encore été versée. Mais ne soyons pas dupes de ces réformes d'organigramme et de ces jeux politiques essentiellement destinés à équilibrer les livres en 2016. Malgré les efforts de compression qui menacent même la qualité des services, cela ne changera rien au fait que la population vieillit, que la science ajoute chaque année de nouvelles interventions au panier de services, que la technologie et les médicaments coûtent de plus en plus cher et que le report de milliards en dépenses de rémunération ne constitue, comme le nom l'indique, qu'un report du problème à plus tard. Pour l'instant, le premier ministre Couillard tient pour acquis qu'Ottawa ne bougera jamais malgré l'évidence de la disparité fiscale qui sépare les deux ordres de gouvernement. Il suffirait pourtant qu'un prochain gouvernement fédéral, préoccupé par le dysfonctionnement de la Fédération, indexe la participation fédérale d'un taux de croissance des dépenses en santé bien contrôlé pour corriger la situation sans nuire aux finances fédérales. Même le directeur parlementaire du budget croit cela possible, c'est dire. Sans un tel rétablissement de la participation fédérale ou sans un nouveau partage des revenus fiscaux négociés avec les provinces, la situation continuera de se détériorer. Pendant ce temps, à Ottawa, le premier ministre Harper s'amusera à distribuer des bonbons coûteux aux électeurs susceptibles de réélire un gouvernement conservateur. Et je rappelle ici deux choses. D'abord, le directeur parlementaire du budget, c'est ce fonctionnaire qui travaille pour la bibliothèque du Parlement à Ottawa et dont la mission est d'informer les députés sur le coût des mesures ou de donner l'impact juste sur la législation proposée. C'est donc un officier parlementaire à peu près neutre. Par ailleurs, la rhétorique du gouvernement conservateur en financement de la santé est la suivante. On va toujours vous dire qu'on n'a pas coupé le financement en santé. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'indexe maintenant au niveau de l'inflation, alors que les dépenses en santé augmentent beaucoup plus rapidement que l'inflation. C'est ce qui va creuser le fossé à terme. On n'a pas coupé le financement à proprement parler, on a coupé sa croissance. Et comme la croissance est inévitable dans ce domaine-là, ça revient à pelleter une bonne partie du problème dans la cour des provinces. Et c'est ce qui va normalement creuser le déficit qu'on voit. Alors, ça va être un dossier à suivre. C'est le retour du déséquilibre fiscal sous le nom de disparité fiscale. Retourne dans les pages du devoir, cette fois-ci pour un texte intitulé « À contre-courant ».
Oui, c'est vraiment dans le prolongement de ce que vous venez de nous exposer, François. Et il semble que la réforme lancée par le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, s'ouvre sur des critiques de plus en plus vives. Alors, il est toujours intéressant de faire se rejoindre la critique et les arguments afin de s'écarter du dogme ou de la confrontation des dogmes elles-mêmes toujours stériles. Eh bien, c'est ce que fait Amélie Daoust-Boisvert dans un article, comme vous venez de le dire, du devoir du 4 octobre qui s'appelle « Réforme de la santé à contre-courant » avec un point d'interrogation. La réforme du réseau de la santé, telle que pensée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaëtan Barrette, est à contre-courant des approches jugées efficientes de par le monde, selon des experts québécois en administration de la santé. Regard sur un projet de loi controversé qui promet pourtant de mettre le patient au centre des soins en éliminant la bureaucratie inutile. Des réformes du réseau de la santé, le chercheur Paul Lamarche en a vu d'autres. Mais en finissant la lecture des 70 pages du projet de loi 10, l'expert en administration de la santé a été pris de vertige. « C'est énorme, énorme, énorme !» s'exclame le professeur à l'Université de Montréal. « Je crains la catastrophe !» lance-t-il. La vraie réforme du projet de loi 10, contrairement à ce que laisse entendre son titre, ce n'est pas l'abolition des agences. Devenant des centres intégrés de santé et de services sociaux, les CISSS, dont on a beaucoup parlé, celles-ci ne changent que de nom, tout en voyant certaines de leurs responsabilités remonter au ministre de la Santé. Cet arbre cache la forêt. Ce que le projet de loi dicte vraiment, c'est l'abolition du niveau de gestion locale du réseau avec la transformation des 92 CSSS de la province en simples points de service. C'est aussi l'octroi de pouvoirs inédits au ministre de la Santé et des Services sociaux. Si la plus grosse réforme du réseau jamais entreprise aboutit à un désastre total, dit le chercheur Denis Bourque, c'est tout le système public qui perdra sa légitimité. Le risque est grand, affirme le titulaire de la chaire de recherche du Canada en organisation communautaire. Aussi, même si la réforme n'est pas inspirante, il croit qu'il faudra se retrousser les manches. « Je ne peux pas m'en faire un défenseur, mais il faut être capable de passer au travers et composer avec ça. Les enjeux sont trop importants. » Gaëtan Barrett a vilipendé l'ancien ministre de la Santé et chercheur Régent Hébert cette semaine pour avoir dit que la réforme est rétrograde et n'est soutenue par aucune donnée scientifique. M. Barrett l'a traité de démagogue avant de présenter des demi-excuses poussé par le Premier ministre qui n'apprécie guère les excès de langage. Or, de nombreux autres experts de l'organisation des systèmes de santé partagent l'avis de M. Hébert. L'ancien ministre de la Santé, Régent Hébert, confirme qu'aucune analyse du MSSS ne pointait dans le sens d'une telle réforme avant l'arrivée au pouvoir des libéraux. On a envisagé la possibilité de passer de 16 à 8 agences de la santé, mais on aurait économisé à peine 25 millions. Le branle-bas de combat n'en valait pas la peine, relate le docteur Hébert. Quel pouvoir le ministre veut-il récupérer? Les plus importants sont ceux qui ont trait à la mainmise qu'il souhaite acquérir sur la gouvernance du réseau. Il nommera tous les nouveaux dirigeants, PDG, président-directeur adjoint des CISSS et membres des conseils d'administration, même les 7 membres indépendants. Le ministre se donne aussi le pouvoir de faire enquête sur les pratiques. Un membre indépendant nommé
par le ministre, oui, mais ils sont vraiment indépendants, ouais. Totalement indépendants.
Totalement, ah oui. Oh, vous me rassurez, François, merci. Le ministre se donne aussi le pouvoir de faire enquête sur les pratiques des établissements, d'établir des corridors de services, de coordonner des services, dont l'hébergement aux aînés, de forcer l'adhésion à des groupes d'approvisionnement, de décider de la structure organisationnelle des établissements, et ce ne sont là que quelques exemples. Imaginez qu'on ait un mauvais ministre, illustre Paul Lamarche, en se gardant de viser M. Barrett. Il n'y a aucune instance pour le ramener à l'ordre, sauf peut-être le Premier ministre. Le postulat, c'est que le ministre a raison, que le réseau doit écouter. Toute critique est perçue comme de la mauvaise foi ou de la résistance au changement, surtout pas comme une tentative de débattre des idées. C'est le retour de la mainmise du pouvoir médical, dit Régent Hébert, qui a repris son poste de professeur à l'université de Sherbrooke. Moi, le retour, je veux bien, je n'ai pas l'impression qu'il soit jamais parti. Hein. Bon, enfin. Qui de l'hôpital spécialisé ou du CLSC aura la voix la plus puissante au sein du nouveau CISSS? Poser la question, c'est y répondre d'avance. C'est y répondre avance Denis Bourque. Excusez-moi pour ce lapsus, mais je pense que c'est clair. Je crains fort que la capacité des communautés à agir sur elles-mêmes et à définir leurs priorités soit sérieusement compromise, dit-il. Nous allons avoir besoin de pare-feu pour éviter que toutes les ressources soient absorbées par le curatif et les services spécialisés. Et les économies tant recherchées dans tout ça? Paul Lamarche n'y croit pas. Les coûts administratifs du système de santé canadien sont parmi les plus faibles au monde. C'est comme si on essayait de couper dans l'épicerie pour équilibrer notre budget sans toucher à la voiture neuve ou à la grosse hypothèque, illustre-t-il. Si le ministre tient à sa vision, il croit que celui-ci devrait d'abord l'expérimenter dans une région de taille moyenne, comme la Naudière. « Je dis toujours à mes étudiants qu'il vaut mieux un petit succès qu'un gros échec », lance-t-il, philosophe. La plupart des systèmes de santé occidentaux tentent plutôt une décentralisation, à l'exception du système de santé le plus centralisé au Canada, qui se trouve en Alberta. La création, il y a quelques années, d'Alberta Health a institué deux niveaux hiérarchiques dans le réseau de la santé, le ministre et le PDG de cette agence unique. Avec quel résultat les PDG se sont succédés à la tête de cette bête difficile à gérer? Dans un bilan dressé en 2013, l'actuel PDG Janet Davidson conseille au gouvernement de rétablir de nouveaux niveaux hiérarchiques. L'Alberta dépense plus en soins de santé par habitant que les autres provinces et même que les autres pays développés. Malgré les investissements que d'autres pourraient envier, la performance n'est pas impressionnante. Des juridictions qui dépensent moins ont de meilleurs résultats en ce qui a trait au temps d'attente, à la satisfaction des patients et à d'autres mesures de la qualité. C'est ingérable et Alberta Health ne gère même pas les services sociaux, résume Paul Lamarche. Les oiseaux de malheur qui prédisent l'apocalypse ont tort, martèle le ministre Gaëtan Barrett depuis le dépôt de son projet de loi. Il promet des économies de 220 millions par année, moins de bureaucratie et plus de soins. Une promesse à suivre. Je crois que ça sera dur. Thank you.
Ils mènent une vie sans excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capital santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool, elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre désucrifié. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge qu'elle combine avec un doux gommage qui restructure en profondeur les macromolécules en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles bien en vue dans le salon? Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel, le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit ah de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des doutes sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie, est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi.
Benabar qui chantait « À notre santé », ce qui était complètement dans nos premiers sujets. C'est un choix de Kamal Salifou qui assure la mise en onde de cette émission. Bienvenue à la barre, Kamal. Et qui, jusqu'à maintenant, fait de très bons choix, disons-le franchement. Bon, on continue avec les mauvaises nouvelles. Il n'y a absolument aucun lien avec la santé cette fois-ci. Ben, peut-être qu'il y en a un, mais il est dramatique. On va parler de gaz à effet de serre et de pollution des cibles fédérales qui sont ratées. José Boileau s'est penché sur le sujet dans les pages du Devoir cette semaine. Un texte qui s'intitule « Que rien ne bouge ». Le texte dit exactement tout ce qu'il y a à dire.
En tout cas, il y a un lien évident avec la santé de la planète.
Tout à fait, tout à fait. J'ai pris ce texte-là, mais cette semaine, il y en avait beaucoup dans à peu près tous les quotidiens au Canada. Le Canada n'arrivera donc pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Qui s'en étonnera? Le gouvernement conservateur avait pourtant pris des engagements en 2012. Que du vent, qui tourne à son avantage. Le premier rapport de la nouvelle commissaire à l'environnement et au développement durable, Julie Gelfand, déposé mardi, s'ouvre par une question. Les ministères fédéraux sont-ils prêts à relever les défis qui vont se poser à l'avenir? Non, doit-on conclure au terme des 6 chapitres du volumineux document. Que de stagnation, que de détestable immobilisme face à une urgence avérée. Le chapitre sur les changements climatiques en offre à lui seul une déplorable illustration. En 2012, le précédent commissaire, M. Scott Vaughan, avait déjà tensé le gouvernement Harper. Au rythme de la mise en place de sa réglementation, le Canada n'arriverait jamais à diminuer de 17 % en 2020 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005, tel qu'établi dans le cadre de l'accord de Copenhague, cible, rappelons-le, bien en deçà des objectifs convenus par les libéraux en 2002 avec le protocole de Kyoto. Il fallait donc presser le pas. notamment en réglementant le secteur pétrolier, deuxième source de gaz à effet de serre au pays et secteur en pleine expansion, disait le rapport. Il fallait aussi, et ce n'était pas la première demande du commissaire à cet égard, un plan global de mise en œuvre pour atteindre la cible, une analyse économique de ce plan et une harmonisation avec la réglementation américaine. En guise de réponse, le gouvernement avait réitéré sa foi dans l'atteinte de ses objectifs, acceptant néanmoins toutes les recommandations du commissaire, précisant même qu'Environnement Canada s'engage à faire preuve de transparence dans le cadre de la mise en œuvre du plan sur les changements climatiques du gouvernement. Bla, 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 faut-il dire aujourd'hui. Mme Gelfand ne peut pas, elle, parler de mauvaise foi, mais comment qualifier autrement le report d'échéance pour la mise en œuvre de plusieurs règlements? Comment justifier la protection inexcusable dont jouit le secteur clé du pétrole et du gaz, pour l'encadrement duquel, en toute non-transparence, le fédéral se contente de consultations privées avec des représentants choisis par l'industrie? Comment interpréter l'absence de toute trace de plan de mise en œuvre demandé il y a 2 ans? Pire encore, c'est la crédibilité même d'Environnement Canada comme organisme de réglementation de calibre mondial qui est en cause, note le rapport. Dur pour un ancien chef de file. La commissaire, dont c'est le travail, reprend donc le bâton du pèlerin des recommandations à suivre. Environnement Canada, qui s'en fout aujourd'hui comme hier, accepte à nouveau toutes les recommandations qui lui sont faites. Mais déjà mardi, aux communes, le premier ministre Stephen Harper se targuait sans preuve à l'appui d'une diminution d'émissions de gaz à effet de serre. C'était de toute manière une belle journée pour lui, puisqu'on vient d'apprendre que l'Union européenne est prête à assouplir ses règles sur l'importation du pétrole des sables bitumineux. Un obstacle de moins, un autre en fait, puisque grâce aux manipulations législatives conservatrices, 80 % des projets d'extraction de pétrole bitumineux évitent maintenant les évaluations environnementales. Je répète celle-là parce que c'est quasiment incroyable. 80 % des projets d'extraction de pétrole bitumineux évitent maintenant les évaluations environnementales. Et il n'y a pas grand-chose à craindre du côté du comité mixte Canada-Alberta chargé de surveiller les effets environnementaux de l'exploitation des sables bitumineux. Son travail n'est vraiment pas rigoureux, révélait mardi un autre rapport, celui du vérificateur général de l'Alberta. Bref, le gouvernement fait ce qui lui plaît et les affaires roulent. La seule cible qui compte, n'est-ce pas celle-là? Et je rappelle, en complément d'information, que cette semaine, il y avait le rapporteur de la prochaine conférence en France sur le réchauffement de la planète, qui était de passage au Canada, qui a voulu rencontrer le premier ministre Harper. Ça a été déclaré impossible, puisque M. Harper ne rencontre que les gens à très haut niveau. Quelques brèves avant de passer à la pause de mi-émission. Je commence immédiatement pour vous parler d'espionnage. C'était un thème récurrent cette semaine, espionnage et Internet. Tout ça pour vous présenter 3 visions différentes. La première, le président du Conseil de surveillance de Google, Eric Schmidt, a déclaré que la surveillance américaine d'Internet risque de casser Internet à terme. Pourquoi? Parce que les différents pays qui entreposent des données sur Internet vont de plus en plus demander à ce que leurs données soient entreposées sur leur territoire national, sur des serveurs locaux, ce qui fait en sorte que si vous voulez vous lancer sur Internet avec une nouvelle entreprise, il faudrait que vous ayez, par exemple, une base de serveurs en Allemagne, une autre en France, une autre en Argentine, une autre au Canada, aux États-Unis. Bref, une petite et moyenne entreprise ne peut pas arriver à ce résultat-là. Et tout ça à cause de la surveillance américaine qui rend les autres nations paranoïaques sur la protection des données. Pendant ce temps-là, toujours sur Internet, on apprenait qu'il y a 2 sortes d'entreprises américaines selon le FBI. Il y a celles qui savent qu'elles sont espionnées par les Chinois et il y a celles qui ne le savent pas. Dans tous les cas de figure, toutes les grandes entreprises américaines feraient l'objet d'espionnage par de cyber-espionnage par les Chinois, puisque, semble-t-il, on invite ainsi tous les frais de développement en Chine. Et finalement, On apprenait qu'il y a encore un cas d'espionnage. Il n'y a pas tellement longtemps, la banque Morgan, JP Morgan, a été l'objet d'une cyberattaque importante. On n'est pas parvenu à aller chercher les données confidentielles des clients. Mais on apprenait cette semaine que plusieurs autres grandes banques américaines avaient fait l'objet d'une attaque similaire, dont Citigroup. Et le président Obama se demande très sérieusement, vu la complexité et l'importance de ces attaques-là, s'il ne faut pas y voir la main de la Russie. Alors, vous voyez, Internet, ça devient le piège de tous les espions.
Avec tous ces noms. Oui, après toutes ces nouvelles qui font froid dans le dos, François, quelque chose de plus rassurant. Montréal continue de rêver au trottoir chauffant. Hein, enjamber des bancs de neige ou mettre le pied dans la gadoue sera peut-être bientôt chose du passé, rue Sainte-Catherine-Ouest. Hein. Cette fois, il paraît que c'est très, très sérieux. La presse le révèle. Le dossier est très avancé, donc vous pourrez bientôt mettre vos chaussures d'été rue Sainte-Catherine en février.
Ce qui m'angoisse là-dedans, c'est que, voyez-vous, on va chauffer les trottoirs pour le confort des pieds des consommateurs et personne ne pense aux itinérants qui auraient bien besoin de quelques mètres carrés de trottoirs chauffants l'hiver. Ouais. Afrique, maintenant, tiens. En Afrique, on apprenait que l'Ebola... L'épidémie d'Ebola actuelle, si elle devait franchir les frontières des quelques pays qui sont actuellement atteints, c'est un risque majeur, notamment pour le Nigeria, eh bien, la facture pourrait être de plus de 32 milliards sur une économie qui n'est déjà pas très, très forte, vous en conviendrez. En attendant, à Londres, autre nouvelle concernant l'épidémie d'Ebola, il y a une première minière qui s'est effondrée en bourse. À cause, évidemment, de l'épidémie qui empêche l'exploitation de la mine de fer. À cause aussi des prix du fer qui sont étonnamment bas ces années-ci. Mais ça y est, ça commence, ça coûte cher et pas seulement en vie humaine.
Comme toutes vos nouvelles sont désespérantes, j'ai essayé de vous réchauffer un petit peu. Il y a un capteur qui arrive sur le marché pour analyser les rapports sexuels. Il fallait bien que ça arrive. Une équipe de chercheurs italiens a développé un système portatif doué d'un accéléromètre pour analyser les rapports les plus intimes. C'est pas une bonne nouvelle, ça?
Ah, ça prenait un Italien pour y penser. Vous l'entendez, c'est déjà le moment de se quitter pour une courte pause. La fin de la première moitié de cette émission. On se retrouve avec d'autres sujets dans quelques minutes.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième partie de cette émission, mais si on a changé de demi-heure, on ne change pas de sujet. On parle encore d'environnement, Éric.
Eh oui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire stop, le monde court à sa perte, il est nécessaire de changer d'organisation en matière de développement, de préservation des ressources ou d'organisation du travail et de la production. Eh bien, une de ces voix qui s'élève, elle est canadienne et de plus en plus écoutée dans le monde, c'est celle de Naomi Klein. Elle a envoyé une lettre à la presse qui a été reprise le 2 octobre par Courrier International et qui s'appelle « Profitons de la crise climatique pour changer de modèle ». Je vous la lis. « Les recherches que j'ai menées depuis 5 ans m'ont convaincu que le changement climatique était l'occasion ou jamais d'amorcer une transformation progressiste. Dans le cadre du projet visant à ramener nos émissions de gaz à effet de serre au niveau recommandé par de nombreux climatologues, nous avons une chance de promouvoir des politiques qui amélioreraient considérablement la vie des gens, comblerait le fossé entre riches et pauvres, créerait énormément de bons emplois et redynamiserait la démocratie à partir de la base. Révolution permanente. Mais rien de tout cela ne se produira si nous ne répondons pas à l'histoire au moment où elle frappe à notre porte, car nous savons à quoi mènera le système actuel s'il poursuit sur sa lancée. Nos émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter de façon exponentielle, année par année, décennie après décennie. Ça ne semble pas être exactement le point de vue de M. Harper ces derniers jours. Hein?
Non, c'est un gouvernement exemplaire, il l'a dit lui-même.
Oui. Bon, alors, voyons voir si, seul contre tous les climatologues, c'est lui qui a raison. Ces gaz piégeront la chaleur pendant plusieurs générations, créant un monde plus chaud, plus froid, plus humide, assoiffé, affamé et en colère. S'il y a le moindre espoir d'inverser la tendance, la demi-mesure ne servira à rien. La révolution climatique devra se jouer en boucle, tous les jours, 24 heures sur 24 et partout. Il est déjà arrivé par le passé que les mouvements de résistance de masse prennent les commandes et cela pourrait fort bien se reproduire. Cela étant, nous devons admettre que pour ramener les émissions mondiales au niveau que préconisent les climatologues, il faudra opérer un changement à une vitesse et à une échelle vraiment impressionnante. Nous ne pourrons atteindre les objectifs fixés par les scientifiques qu'en contraignant certaines des entreprises les plus rentables de la planète à tirer un trait sur des milliers de milliards de dollars de recettes futures en renonçant à exploiter la grande majorité des réserves prouvées de combustibles fossiles. Il nous faudra également trouver des milliers de milliards de plus pour financer des transformations sociétales susceptibles de relever le défi du zéro carbone et de préparer le monde à réagir aux catastrophes. S'il est vrai qu'il n'existe encore aucun précédent historique parfaitement comparable au défi climatique, les mouvements du passé n'en ont pas moins été riches en enseignements. L'une de ces leçons est que lorsque de grands bouleversements se produisent dans l'équilibre des pouvoirs, ils sont invariablement le résultat d'une extraordinaire mobilisation sociale. Dans ces moments clés, l'activisme n'est plus l'apanage exclusif d'une petite tribu au sein d'une culture donnée, qu'il s'agisse d'une avant-garde radicale ou d'une sous-catégorie de professionnels convaincants, mais il devient une activité tout à fait normale qui s'étend à toute la société. Dans les moments historiques exceptionnels, les deux guerres mondiales, le contre-coup de la crise de 1929, l'apogée de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, la séparation classique entre activistes et gens normaux a perdu son sens car le projet de changement sociétal était inextricablement lié au projet de vie. Les militants étaient tout simplement tout un chacun. Il faut toujours garder à l'esprit que le plus grand obstacle que devra surmonter l'humanité pour résoudre la crise climatique ne tient ni à une action trop tardive ni à un manque de savoir-faire. Il nous reste tout juste assez de temps et nous sommes inondés de technologies vertes et de projets écologiques. Mais si nous sommes encore si nombreux à nous résigner, c'est parce que notre classe politique semble totalement incapable de s'approprier ces outils et de mettre en œuvre ces projets. C'est drôle ce mot « s'approprier » parce que c'est le bon mot. Il ne s'agit pas de lutter contre la conscience populaire ou je ne sais quelle résistance sociale. Il s'agit juste de la servir et de faire les choses qu'elle ne peut pas faire elle-même. Bon. Toutefois, les coupables ne sont pas uniquement les individus que nous élisons pour ensuite nous plaindre d'eux. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Ah, ça j'aime bien. Prenons notre destin en main, c'est la plus belle formule qui puisse exister dans la prise de conscience politique. Avec les yeux rivés sur nos smartphones et une capacité de concentration, finalement je préfère le dire en anglais parce que ça m'évite de prononcer le mot intelligent associé à téléphone, et une capacité de concentration aussi brève qu'un clic de souris, pris en tenaille par le fardeau de la dette et la précarité de l'emploi, où et comment trouverions-nous le temps de nous organiser? À qui pourrions-nous faire suffisamment confiance pour nous diriger? Et d'ailleurs, qui est ce « nous » De nombreux arguments économiques plaident pour l'abandon des combustibles fossiles et de plus en plus d'investisseurs patients en prennent conscience. Mais nous ne remporterons pas la bataille contre le réchauffement climatique en essayant de battre les comptables sur leur propre terrain, en soutenant par exemple qu'il est plus rentable d'investir aujourd'hui dans la réduction des émissions que de réparer demain les dégâts de la catastrophe. Par ailleurs, le monde ne ressemble pas à ce qu'il était à la fin des années 80. Lorsque le changement climatique s'est imposé dans le débat public, le libéralisme et le triomphalisme de la fin de l'histoire étaient à leur apogée. Mais sa phase décisive arrive dans un tout autre contexte historique. Nombre des freins qui empêchaient de réagir à la crise sont aujourd'hui usés. Des décennies d'inégalités et de corruption galopantes ont discrédité l'idéologie libérale, lui ôtant une grande part de son pouvoir persuasif, sinon encore de son pouvoir politique et économique. Beaucoup d'entre nous commencent à se rendre compte qu'aucun chevalier blanc n'arrivera pour résoudre cette crise. Si le changement doit se produire, ce sera parce qu'il aura été impulsé depuis la base. Nous sommes aussi beaucoup moins isolés que nous ne l'étions pour la plupart il y a encore 10 ans. Les structures bâties sur les décombres du néolibéralisme, des médias sociaux aux coopératives ouvrières, en passant par les marchés paysans et les banques solidaires, nous ont aidés à former une communauté malgré la fragmentation de la vie postmoderne. Au vu de ces facteurs, il est fort probable qu'une nouvelle crise nous poussera de nouveau dans la rue et sur les places et qu'elle nous prendra tous par surprise. J'aime bien ce texte parce que c'est à la fois un mélange de grand optimisme et de grand pessimisme, les deux phases absurdes d'une seule médaille qui s'appelle l'espérance.
C'est quand même terrible de penser qu'il faut en arriver à une catharsis pour réagir enfin, alors que si on le faisait maintenant, si on prenait maintenant les moyens qui s'imposent, on diminuerait la facture de façon conséquente.
Oui, enfin c'est au moins l'idée qu'on peut peut-être arriver à quelque chose. Elle est encore là. Pour combien de temps, je ne sais pas.
Allez, que serait une émission en économie qui ne vous donnerait pas des conseils de placement? Je pense que c'est un poncif. Voilà, c'est une figure imposée. Il faut passer par là de temps en temps. Une chance pour moi, Gérard Bérubé, dans les pages du Devoir, toujours s'est penché sur la question. En fait, il nous rapporte les conseils qu'il a lus dans un autre magazine, ce qui est assez exceptionnel de la part de Gérard Bérubé. Un texte intitulé « Les pièges que l'investisseur pourrait éviter ». Les Warren Buffett et Stephen Jarislowsky de ce monde diraient que l'investisseur est lui-même son pire ennemi. Petite liste des pièges à éviter et retour sur la philosophie d'investissement de l'Oracle d'Omaha. Le magazine spécialisé Conseiller propose une liste de 7 pièges ou erreurs à éviter. En voici un bref survol. Premier piège, prioriser les émotions plutôt que les faits. En tombant amoureux avec l'histoire derrière une compagnie ou un produit, on perd de vue ses principaux défauts ou les conditions de marché défavorables. Les histoires, plus que les faits, font appel aux émotions. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous voyez un nouvel avion qui décolle, vous trouvez ça beau, vous investissez massivement dans la compagnie qui le fait et vous vous exposez terriblement. Deuxième piège, investir dans la première nouveauté, toujours le foutu avion.
Sauf Air Canada.
Rien n'est jamais différent. Les risques inhérents aux investissements fructueux ne changent jamais. Ainsi, seul un certain pourcentage des investissements surpassera le reste, peut-on lire dans le magazine. Il importe donc de s'en tenir aux méthodes qui ont fait leurs preuves. Personne ne s'est jamais retrouvé ruiné en se tenant loin des nouveaux types d'investissements, plus particulièrement ceux qui relèvent de l'ingénierie financière. Et par ingénierie financière, on entend ici les produits dérivés de deuxième, de troisième et bientôt de quatrième génération qui vous donnent des options de possibilités d'achat, éventuellement d'options de ressources qui peut-être vont être créées un jour. C'est très, 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 très risqué. Troisième grand risque, bonne idée contre bon investissement. En voulant être le premier à profiter d'une nouvelle idée, l'investisseur estime qu'il fera fortune en s'impliquant au début du cycle de vie du produit ou en croyant qu'il a repéré une potentialité ayant échappé au reste de la communauté d'investisseurs. L'erreur suivante est d'extrapoler l'utilisation personnelle comme indicateur d'une popularité à grande échelle. La troisième erreur consiste à croire qu'une utilisation plus large du produit ou du service se traduira naturellement par la profitabilité. Mais où sera le rendement si le cours de l'action est surévalué ou si l'on reste accroché trop longtemps à un produit à la mode? Et ici, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre avoir un bon produit, effectivement, et être capable de le vendre, avoir une bonne idée et être capable de la rentabiliser, de ne pas se la faire piller par la concurrence, par exemple. Quatrième piège, le rendement à tout prix. Rechercher un investissement plus risqué uniquement pour bonifier son rendement de quelques points de pourcentage est une arme à double tranchant, d'autant qu'un rendement potentiel accru est souvent signe qu'il faut vendre. Cinquième piège, ne pas savoir vendre. Lorsque le cours d'un titre recule sous le coup d'une mauvaise nouvelle ou d'une contre-performance, l'investisseur voit soit le vendre parce qu'il craint une cascade d'autres mauvaises nouvelles, soit acheter le titre pendant qu'il est très bas en croyant que même une remontée de moitié ramènera l'investissement à sa valeur originale. Il s'agit là de pure psychologie. Il y a presque toujours une meilleure solution d'investissement que cette dernière. Sixième piège, ne rechercher que le court terme. Et ça, c'est le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Focaliser sur le court terme, vendre, acheter et revendre à la moindre saute d'humeur ne peut qu'enrichir le courtier. Jouer le timing market a rarement rapporté. Il est d'ailleurs reconnu que l'investisseur moyen jouant le court terme a plutôt tendance à acheter au sommet et à vendre au creux. Une main patiente est tout ce dont l'investisseur a besoin. Septième piège, dormir trop longtemps sur son placement. C'est l'inverse du premier, en fait. Détenir des actions gagnantes trop longtemps peut s'avérer aussi coûteux que de conserver des titres perdants. La meilleure façon d'éviter la perte d'un important gain sur papier est de vendre graduellement durant la période haussière. L'instauration d'un système visant à vendre une partie des actifs gagnants ayant atteint un certain niveau peut aider à éviter cette erreur d'investissement, poursuit conseiller. Warren Buffett, quatrième fortune mondiale selon Forbes, a déjà déclaré qu'un petit investisseur peut faire plus d'argent que les professionnels du placement s'il connaît ses limites, s'il cherche la valeur intrinsèque, le fameux fondamental, et s'il évite les conseils des experts. Pour lui, en matière d'investissement, la productivité future passe avant le prix. Si vous portez votre attention sur le changement de prix futur d'un achat envisagé, vous spéculez. Ainsi, se fier aux prévisions économiques n'est qu'une perte de temps. Il faut simplement reconnaître quand les prix des actions sont trop bas ou trop hauts, lorsqu'il y a écart par rapport à leur valeur réelle. Un climat de peur est votre ami lorsque vous investissez. un monde euphorique est votre ennemi. Il ne cesse de ressortir l'importance consistant à prioriser la qualité d'une entreprise au-delà des humeurs de marché. On ne contrôle pas la météo, on ne peut pas la prévoir. Là-dessus, les opinions sont partagées. Par contre, si vous choisissez de belles entreprises qui ont de bons bilans, qui sont rentables et qui ont un bon modèle d'affaires, qui sont bien gérées, elles seront capables de passer à travers les tempêtes. Et conseiller de conclure, suivre les règles, c'est investir. Suivre ses émotions, c'est parier.
Una cupulella cavizziera alzata, passa scampagnando peduleto, pottene guapo pete fa guardare, tu fa l'americano, americano, americano, sienta medico fa fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pote sente disturba. Qua ballo rock and roll, qua gioca a baseball, me sorte de camel, chi te li dà la mosera di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma sera di l'Italia, senta me non ci sta niente, fa, ok napoletan, tu vuoi fa l'americano, tu vuoi fa l'americano. Come te può capire chi te vuol bene, se tu le parla mezza americana, quando se fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta medico papà, tu vuoi vivere alla moda. Ma se bevi whisky e soda, pote se ne disturba, tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorte del camel, chi te li dà la borsera di mamma tu vuoi fa l'americano, americano, americano, ma se la dirà lì, siendame non ci sta niente, ma ok napoletan, tu vuoi fa l'americano, tu vuoi fa l'americano. L'americano, americano, americano, senta me dico papà, hey! Wow! Ma tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pote se ne disturba, tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte de camel, chi te li dà la morsera di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma se la dita lì, senta me non ci sta niente, va, ok napoletan, tu vuoi fa l'americano, tu vuoi fa l'americano, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda.
Marco Cagliari qui chantait l'Americano. Et quel titre pour introduire votre prochain sujet, Eric?
Oui, on assiste à une sorte de mouvement de balancier. Hein. Les produits fabriqués à bas coût en Chine ou ailleurs commencent à perdre leur avantage concurrentiel. On sait pourquoi, la hausse des salaires, etc. Alors, d'où le rapatriement de certaines activités, et notamment aux États-Unis. Bon, très bien, mais est-ce que les conséquences sont uniquement financières? Eh bien, ça a intéressé Sylvain Larocque dans un article de la presse du 3 octobre que je vous lis. En 1979, alors qu'il avait tout juste 29 ans, Arnold Kamler a ouvert sa première usine de vélo au New Jersey. Il a dû la fermer en 1991 en raison de la concurrence chinoise. Aujourd'hui âgé de 64 ans, le président de Kent International s'apprête à reprendre pied aux États-Unis. La nouvelle usine de Kent ouvrira dans une dizaine de jours à Manning, en Caroline du Sud. Quand elle atteindra sa vitesse de croisière dans 3 ans, elle fabriquera environ 500 000 vélos par année. C'est du même ordre que l'usine brésilienne du conglomérat montréalais Dorel, la plus grande à l'extérieur de l'Asie, qui produit 700 000 vélos par an. À terme, l'investissement de 4 millions de dollars américains de Kent International créera 175 emplois dans cette région défavorisée. Avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre en Chine, nous estimons que d'ici 2 ans, il ne reviendra pas plus cher de fabriquer aux États-Unis que là-bas, affirme M. Kamler. D'ici là, Kent et ses clients, dont Walmart, absorberont l'écart de coût qui est d'environ 10%. Mais comme les frais de transport diminueront, le fabricant pourra se permettre d'assembler ses vélos à 90%, ce qui épargnera temps et argent aux détaillants. Kent International est la première entreprise à reprendre la fabrication de masse de bicyclettes en Amérique du Nord. Procycle, de Saint-Georges, en Beauce, a cessé ce type de production il y a plus de 5 ans pour se concentrer sur les vélos haut de gamme. Plus tôt cette année, la Britannique Raleigh a fermé sa dernière usine canadienne qui était située à Waterloo, en Montérégie. Comme bien des entreprises qui ramènent de la production aux États-Unis, Kent importera la majorité des pièces des vélos assemblés en sol américain, du moins au début. D'ici 1 an ou 2, l'entreprise effectuera la soudure et la peinture des cadres dans sa nouvelle usine. Et à terme, Kent espère convaincre des fournisseurs d'installer des usines satellites sur des terrains adjacents. À Allendale, à 150 km au sud-ouest, une autre entreprise américaine fait le pari de rapatrier une partie de sa production chez l'Oncle Sam, ce qui nécessitera un investissement de plus de 10 millions de dollars. Il s'agit de Louis Hornick, qui commercialise des rideaux et des draperies. La firme avait fermé son usine américaine en 2008 pour se tourner vers l'importation. Le phénomène du reshoring ressuscite de grands espoirs aux États-Unis depuis 5 ans.
Reshoring,
oui, je suis désolé. Enfin, vous savez que moi, l'anglais, je repousse autant que je peux. Le président Barack Obama a fait de la renaissance du secteur manufacturier la pierre angulaire de sa politique économique, y voyant une façon de créer des centaines de milliers d'emplois. Depuis 2008, quelques 200 entreprises américaines ont rapatrié aux États-Unis une partie ou la totalité de leur production auparavant effectuée dans des pays à faible coût. Selon un sondage mené l'an dernier pour le Boston Consulting Group, 54% des fabricants américains ayant des ventes annuelles d'au moins 1 milliard songent à rapatrier aux États-Unis une partie de la production. En 2012, c'était 37%. Mais le plus difficile, c'est de trouver de bons travailleurs, alors que l'industrie a pratiquement été rayée de la carte aux États-Unis. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire », reconnaît M. Lloyd. « Je n'essaierai pas de vous dire que tout est fantastique. » Nous sommes encore très loin de l'objectif. Les Chinois sont encore bien meilleurs que nous, tant sur le plan technique que de l'efficacité. Mais il faut dire qu'ils sont là-dedans depuis un bon moment. Le géant chinois Lenovo a aussi jugé que le moment était venu de déplacer une partie de sa production aux États-Unis. L'an dernier, l'entreprise a installé à Whitsett, en Caroline du Nord, une chaîne de production d'ordinateurs, dont les portables ThinkPad, ce qui a entraîné la création de 115 emplois. Lenovo a repris plusieurs ex-salariés du concurrent Dell, qui a fermé une usine dans la région en 2010. Cela faisait plus de 15 ans qu'IBM avait délocalisé à l'extérieur des États-Unis la fabrication de sa gamme d'ordinateurs personnels, acquise par Lenovo en 2005. Ne nous racontons pas d'histoire, produire aux États-Unis coûte plus cher qu'ailleurs. Mais nous sommes plus près de nos clients, résume Milanka Mweke, porte-parole de l'entreprise. C'est bon pour nos affaires, mais c'est aussi bon pour le pays, renchérit Tom Looney, vice-président et directeur général pour l'Amérique du Nord. Il note avec fierté que les boîtes des ordinateurs assemblées à Whitsett portent tous un autocollant arborant la mention « Made in North Carolina ». Qu'est-ce qui explique ce revirement majeur? D'abord, la hausse des salaires en Chine, qui oscille entre 10 et 20% par année. Aux États-Unis, les salaires stagnent dans l'industrie manufacturière depuis la récession de 2008. Dans plusieurs régions, ils ont carrément reculé, des usines à salaire relativement élevé ayant été remplacées par d'autres qui versent à peine plus que le salaire minimum. Ensuite, la productivité a davantage augmenté aux États-Unis que dans plusieurs pays en développement, en raison notamment de l'automatisation accrue des usines. Les coûts de transport ont aussi bondi ces dernières années, tout comme le prix de l'énergie en Chine. Pendant ce temps, le coût du gaz naturel reculait significativement aux États-Unis en raison de la révolution du gaz de schiste. En 2011, le fabricant d'ascenseurs Otis a annoncé qu'il allait fermer une usine au Mexique et deux aux États-Unis pour en transférer la production dans de nouvelles installations situées à Florence, en Caroline du Sud. Argument invoqué, réduire les coûts et mieux servir les clients. La nouvelle usine a été inaugurée à l'automne 2012, mais la transition a été douloureuse. Otis a eu du mal à trouver des employés qualifiés dans la région, ce qui a entraîné des retards de production. L'usine mexicaine a dû rester ouverte 6 mois de plus que prévu pour compenser. Je pense que nous avons échoué autant dans la planification que dans l'exécution, a reconnu en mars l'un des dirigeants d'Otis. L'an dernier seulement, la mésaventure a coûté pas moins de 60 millions à l'entreprise, qui assure toutefois que les problèmes sont maintenant réglés. Comme quoi, faut faire attention et pas se réjouir trop vite. Peut-être que le balancier revient de l'autre côté, mais il est encore un petit peu lent à la détente.
Pour vous ramener sur la scène locale, je vais m'intéresser aux propos d'Isabelle Ducasse de La Presse. Isabelle Ducasse qui s'est demandé, mais combien ça coûte un enfant? Vous êtes-vous déjà... Bon, évidemment, je sais, ça, on ne compte pas ça en argent. Mais la question méritait d'être posée. Alors, il y a plusieurs chiffres qui sont sortis. Par exemple, selon l'Institut Fraser, un enfant coûte de 3 000 à 4 500 $ par an si on ne calcule que les besoins essentiels sans tenir compte des frais de garde ou de revenus qui baissent pendant le congé parental. Pour le Conseil de la famille et de l'enfance, ce serait plutôt de 7 500 à 10 000 $ par année. Pour le ministère de la Justice du Québec, si vous gagnez entre 60 et 62 000, eh bien, c'est 8 100 $ que votre bambin vous rapportera en pension alimentaire si jamais on ne vous souhaite pas vous divorcer. Et finalement, selon une enquête qu'on a menée auprès des gens, des parents eux-mêmes, mais il faudrait plutôt parler de 12 500 $ par année. Voilà, ça nous fait réfléchir.
Bon, moi, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer. Savez-vous que les femmes jalouses, inquiètes ou stressées présentent un risque plus élevé? Là, ça vient d'une étude suédoise, hein, quand même un pays où le féminisme est à l'honneur. Elle a été publiée d'ailleurs par la revue scientifique Neurology. Et donc, beaucoup plus de risques et il faut faire très attention. C'est une raison supplémentaire d'ailleurs de réduire la jalousie, l'inquiétude et le stress.
Un commerce particulièrement repoussant à l'échelle mondiale, c'est celui des passeurs. Ce sont des gens qui, finalement, aident les gens à immigrer illégalement, principalement vers l'Europe et l'Amérique du Nord, on l'aura bien compris. Il faut savoir, et c'est une estimation de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les deux principales routes d'immigration illégale, celles qui conduisent vers l'Europe et l'Amérique du Nord, comme je le disais, rapporteraient environ 7 milliards de dollars par année aux passeurs. Et on l'a vu cette année avec les catastrophes survenues en Méditerranée. C'est une industrie qui tue, cette l'IA.
Oh, affreux. Savez-vous que les boissons énergisantes perturbent notre sommeil? C'est une étude espagnole qui nous le dit. Donc, il faut éviter d'en boire si on veut limiter les risques de souffrir d'insomnie et de nervosité. Et ça, même des heures après une compétition sportive. Bon, enfin, c'est quand même le début du dopage, ces trucs. Et puis, c'est très mauvais.
Est-ce que SNC-Lavalin fait partie des « too big to fail », des entreprises qui sont trop grosses pour qu'on leur permette de faire faillite? C'est la question qu'a laissé planer, en fait, Robert Card, le président du groupe, quand il a suggéré au Globe and Mail cette semaine qu'on ne pouvait pas imposer de sanctions pénales très graves à SNC-Lavalin puisque ça forcerait l'entreprise à se démembrer et à fermer un siège social à Montréal qui emploie 5 000 personnes. Quand même, c'est important. Ces propos ont été évidemment mal reçus, puisqu'on le sait, SNC-Lavalin a trempé dans plusieurs affaires de collusion un peu partout dans le monde, principalement en Afrique du Nord et ici avec le centre de santé McGill.
Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Dracula, qui employait aussi pas mal de monde à son époque, mais il paraît qu'on a retrouvé son château en Turquie, hein, en restaurant un château qui s'appelle Tokat, au nord de la Turquie. Eh bien, des archéologues ont découvert un passage secret menant à deux donjons constitués de cellules. Eh bien, on pense que c'est là qu'a été emprisonné Vlad l'Empaleur. Et Vlad l'Empaleur, eh bien, c'est celui qui a donné naissance qui a inspiré le personnage fictif, lui, de Dracula.
Aimez-vous votre argent? Je ne parle pas ici de votre fortune personnelle, bien sûr, là, mais de cet objet physique qui traîne dans vos porte-monnaies. Aimez-vous votre monnaie, vos billets de banque, voilà. Eh bien, si ce n'est pas le cas, répondez à la consultation de la Banque du Canada, puisque la Banque du Canada invite les Canadiens à s'exprimer sur la conception des prochains billets de banque au pays. On le sait, il y a des, il y a presque plus de femmes sur nos billets, à part évidemment Sa Majesté. Il faut discuter des couleurs, discuter de qu'est-ce qu'on représente sur nos billets. Est-ce qu'on pourrait aussi se pencher sur le fait qu'ils sont collants l'un contre l'autre, puis qu'on ne sait jamais si on en a 12 dans les mains ou deux?
Mais la reine d'Angleterre n'est pas une femme, c'est une idée. Bon, alors, à propos de vie extraterrestre, eh bien, savez-vous qu'un nouveau télescope est financé par le Canada? Il pourrait aider à rechercher des signes de vie extraterrestre. Eh bien, le Canada finance 2 caméras et un des 4 instruments scientifiques embarqués à bord du télescope. James Webb, un projet de 8 milliards de dollars pour 2018. Bonjour les Martiens.
Eh oui, c'est réconfortant de penser que le Canada va peut-être trouver de la vie à l'extérieur du Canada et de la planète, alors qu'il participe activement à éteindre la vie sur cette planète. Pendant ce temps-là, en Europe, la Banque centrale européenne se prépare à racheter des papiers commerciaux à valeur adossée, ceci afin de libérer de l'espace pour les banques qui pourront prêter, générer de l'inflation et peut-être relancer l'économie. C'est la spirale des papiers commerciaux à valeur adossée qui reprend.
Et pour finir, je vous invite à multiplier les repas en famille car ça réduit les risques d'obésité.
Voilà, alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Kamal Salifou qui a